Merci Félicity, merci Léa, merci Bénédicte. Bénédicte va entendre des choses qu'elle a déjà entendues, qu'elle a même pour partie publiées en anglais ou en allemand. C'était sous sa direction, mais il y a un certain nombre de choses inédites en plus que vous allez les voir aujourd'hui. Et juste pour appuyer ce qu'a dit Emmanuel, je vous invite à lire les Souvenirs de l'Exode du Louvre de Germain Bazin et le ton qu'il emploie contre Rose Valland dans cet ouvrage-là, et vous comprendrez toute l'animosité qu'il pouvait avoir contre elle, et que c'est bien dommage qu'elle n'ait pas publié la photo plus tôt. Sur ce, lors des conflits armés, en fait, le patrimoine d'un pays est à la fois l'emblème d'une identité collective, une source de convoitise, et très souvent un otage. Les exemples de confiscation abusive et de pillage à grande échelle sont multiples tout au long de l'histoire, et bien présents lors des derniers siècles, du sac du palais d'été par les troupes britanniques et françaises en 1860 en Chine, lors de la seconde guerre de l'opium, au pillage du musée de Bagdad en avril 2003, qui est l'un des exemples récents de cette vulnérabilité des institutions patrimoniales. Les destructions patrimoniales sont également nombreuses lors des conflits, qu'il s'agisse, pour rester dans une actualité proche, de tous ces dynamitages qui ont eu lieu ces dernières années, ces combats, que ce soit à Bamiyan, que ce soit à Hatra en Irak, ou encore à Palmyre en Syrie, alors même qu'il existe désormais une législation internationale protégeant le patrimoine culturel. La période de mise en danger patrimoniale la plus connue de l'histoire de France, après celle de la Révolution, est sans conteste la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, elle reste encore relativement peu étudiée, et surtout, il existe un certain nombre de précédents qui ont permis l'évacuation de 1939 et qui ont disparu en fait, de la mémoire collective française. En effet, quand l'impératrice Eugénie fuit les Tuileries en passant par la Grande Galerie du Louvre le 4 septembre 1870, elle traverse un musée dont les tableaux ont été évacués. Et lorsque la Grosse Bertha, ce canon qu'on appelle la Grosse Bertha, mais qui n'était pas la Grosse Bertha, bombarde Paris en 1918, les collections des musées ont depuis longtemps quitté la capitale. Aussi, aujourd'hui, je vais axer cette présentation, qui bien entendu sera trop longue et en même temps trop courte par rapport à tout ce que j'ai à dire, autour d'un certain nombre d'éléments concrets afin de vous présenter une rapide histoire de ces évacuations et de leur mise en perspective, et de comprendre comment les musées français ont tenté de résister au phénomène de translocation lors de ces événements. Donc, qu'en est-il de nos connaissances des institutions muséales françaises lors des différents conflits internationaux traversés par les pays européens depuis la mi-19e siècle ? Le premier des conflits concernés, celui de la guerre franco-prussienne de 1870, était jusqu'à récemment en fait vierge de toute publication scientifique, et l'évacuation du Louvre a été quasi totalement oubliée. Cette question n'avait été abordée en fait que par quelques contemporains, sans que ses auteurs aient même pris conscience de l'importance patrimoniale de cette évacuation. En effet, le 29 août 1870, alors que le désastre de Sedan se profile, le comte de Nieuwkerk, surintendant des musées impériaux, est convoqué aux Tuileries. L'impératrice désire le voir de suite, et lors de cette entrevue, la décision d'évacuer les collections du Louvre est prise. Le lendemain, le maréchal Vaillant, donc le ministre de la Maison de l'Empereur, informe Nieuwkerk, dans une lettre absolument confidentielle, comme vous pouvez le voir à l'écran, qu'on retirerait des musées impériaux pour les mettre en lieu sûr les tableaux les plus précieux. Donc une décision exceptionnelle, la mise à l'abri des collections les plus précieuses d'une nation, dans le cadre d'un conflit armé, vient d'être prise dans les tout derniers jours du Second Empire, et en l'occurrence par l'impératrice. Seule institution concernée par cette première évacuation, enfin c'est ce qu'on croyait au début, le Louvre donc décide d'abriter en priorité les collections des tableaux et des dessins. Le lieu de dépôt des œuvres retenues est l'arsenal militaire de Brest, le port en fait de Brest. Ce choix stratégique permet de profiter de la protection de la marine, tout en offrant en fait surtout la possibilité d'évacuer les collections par la mer si jamais les Prussiens assiégeaient Brest. Le préfet militaire pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de n'agir pas trop en cachette. On débarquera les wagons dans un chaland, ils seront hébergés sur l'Hermione. Alors l'Hermione, en fait, c'est le navire-école de la marine impériale à l'époque. Cela ne passera pas par les magasins et il faudrait que les caisses portassent en grosses lettres « Envoi au Gabon ». Voilà. Bon, on ne va pas tout à fait faire tout ça, mais en tout cas, on va envoyer les caisses jusqu'à Brest. Nieuwkerk choisit Pierre-Paul Bosse de Tauziat, qui est attaché au département des peintures, pour accompagner le premier convoi et accueillir les suivants en gare de Brest, et garder les tableaux, et c'est là que c'est important, tant que durerait la guerre. Le premier convoi part le 31 août 1870. 13 caisses quittent le Louvre jusqu'à Brest, au grand dam de Frédéric Rezel, le conservateur des peintures, horriblement inquiet, hein, je le cite, car une précipitation comme celle d'hier et d'avant-hier peut entraîner des malheurs irréparables. De Brest, Tauziat annonce par télégramme à Nieuwkerk qu'il est bien arrivé, sans encombre, que les wagons contenant les tableaux sont directement rentrés dans l'arsenal, qui dispose de son propre réseau ferré, et Tauziat a choisi le hangar qui offrait le plus de garanties contre l'ennemi, donc le plus loin des fortifications, et aussi pas trop près de la mer non plus, parce qu'il faut faire attention à l'humidité, bien entendu, ambiante. Tous les aménagements demandés sont aussitôt effectués par les troupes de marine, mises au service de la protection des œuvres, et on a comme ça toute une série de télégrammes où Tauziat explique tout ce que la marine fait, construit, transforme le hangar, crée des socles pour les caisses, etc. Les envois succèdent en fait jusqu'au 4 septembre, lorsque à Paris, en fait, Frédéric Rezet, donc le conservateur des peintures, finit par arrêter le processus d'évacuation à la suite de la chute de l'Empire. 75 caisses sont parties jusqu'à Brest, en fait, dans ce délai, et 293 tableaux ont été évacués en 4 jours. Donc la moitié des tableaux considérés comme les plus précieux du Louvre sont partis en 4 jours, et la liste de ces œuvres existe, une liste complète, et des fiches, 130 fiches, rédigées au moment de la mise en caisse. Donc vous voyez la fiche Musée du Louvre Grand Salon 1, c'est donc la caisse considérée comme la plus importante pour le Louvre à l'époque. Dedans, vous avez le catalogue des peintures du Louvre, et puis vous avez deux œuvres, La Belle Jardinière de Raphaël et La Femme Hydropique de Gérard Doux, envoyées le 31 août, il y a la date. L'emballeur, c'est Chenu, toujours eux, déjà eux, et je vais y revenir ensuite. Donc le plan d'évacuation prévoyait la mise en caisse des œuvres présentées dans le grand salon, de la galerie des 7 mètres, des travées de la grande galerie, de la galerie flamande, la galerie française, la galerie Lacaze et le cabinet des dessins. Mais on ne va pas tout évacuer puisqu'on n'aura pas le temps. Les œuvres du grand salon, donc, c'est les premières à avoir été descendues des 6 mètres et placées en caisse. Donc la caisse 1, ce sont ces deux œuvres-là. Pourquoi ? Parce que la Belle Jardinière de Raphaël, à l'époque, est considérée comme l'œuvre la plus importante du Louvre, suivie de La Femme Hydropique de Gérard Doux. Et donc, récemment, j'ai trouvé de nouveaux témoignages, et notamment de Rezet, enfin on décrit Rezet devant ce triste et humiliant spectacle, Rezet pleurant à chaudes larmes devant la Belle Jardinière au fond de sa caisse. C'est Edmond Goncourt qui l'écrit. Dans ces caisses qui quittent le Louvre lors du premier convoi, sont également entreposés le couronnement de la Vierge de Fra Angelico, la Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne de Léonard de Vinci, la Vierge de la Victoire de Montaigne, la conception de la Vierge de Murillo qui n'est plus au Louvre et qui est retournée au Prado en 1941 dans le cadre d'un échange entre Pétain et Franco, la déposition de croix de Ribera. La Joconde, quant à elle, est placée dans la caisse numéro 11, avec deux paysages du Lorrain, la Salomé de Bernardo Luini, un Diogène, qui est le premier poussin évacué, et elle ne part que le lendemain. Et vous comprendrez pourquoi elle n'a pas encore cette place de totem à l'époque, puisqu'elle n'a pas encore été volée, en fait, tout simplement. Les noces de Cana qui se croyaient, et là encore je cite les contemporains, attachées au mur du Louvre pour l'éternité et qui ne sont plus qu'un colis protégé contre les aventures du déplacement et du voyage par le mot fragile, quittent Paris le 1er septembre. Elles arrivent roulées à Brest, donc elles ont été démontées, décadrées, et c'est à la plus grande surprise en fait de Tauziat qui les accueille à Brest, car leur état de conservation en fait défraye la conique depuis de très nombreuses années, et personne ne pensait qu'elles seraient déplacées. Alors il faut noter la rapidité avec laquelle cette évacuation s'est déroulée, et sans réel dommage pour les œuvres, ça aussi c'est assez incroyable. Et si la suite donc de l'évacuation s'était déroulée à la même cadence, à la même vitesse, en fait en une semaine, le Louvre aurait mis à l'abri ses tableaux les plus importants. Alors que rien n'était prêt le 30 août. Le convoi du 4 septembre donc, est stoppé par Rezet, le processus d'évacuation arrêté par le nouveau régime. Toutefois, on ne fait pas revenir les œuvres de Brest. Et Jules Simon, qui est ministre de l'Instruction publique, donc dans la transition à la chute du Second Empire, et responsable des musées à partir du 6 septembre, demande à Rezet en fait, de continuer la mise en caisse des collections, Et le 23 septembre, en fait, les 122 caisses restantes et les dessins du cabinet des dessins ne sont pas évacués, mais sont descendus dans les sous-sols du Louvre pour être cachés. Alors, une longue attente débute à partir de ce moment-là pour Pierre-Paul Bosse de Tauziat, puisque je vous ai dit qu'il devrait rester à Brest le temps que durerait la guerre. Et donc, il va rester seul avec les tableaux du Louvre, cachés dans l'arsenal de Brest, en attendant que la situation militaire et politique française se stabilise. Le projet de faire revenir les œuvres est discuté pour la première fois par le Conservatoire des musées en mars 1871. Donc, septembre 1870, mars 1871. Mars 1871, où la Commune éclate. Vous imaginez bien que l'autorisation de retour n'est pas donnée à ce moment-là et que finalement, elle ne sera donnée par Charles Blanc que le 31 août 1871 et il faudra attendre le 7 septembre 1871, donc plus d'un an après leur départ, pour que les 77 caisses qui avaient été évacuées reviennent intactes au Louvre. Cette arrivée, elle se fait dans la plus grande discrétion. Les œuvres rentrent dans un Louvre qui a été totalement fermé au public. Et on a une véritable chape de plomb qui entoure finalement cette première évacuation des collections publiques françaises. Alors certes, Edmond de Goncourt aborde en 10 lignes l'évacuation dans son journal en date du 2 septembre 1870, mais c'est un journal privé. Il a croisé en fait Philippe de Chennevières, qui est conservateur du Luxembourg, devant le Louvre, et ils ont parlé en fait de l'évacuation. Et c'est pour ça en fait qu'il sait ce qui s'est passé. La presse, quant à elle, observe la plus grande discrétion sur l'évacuation. Seul le journal Amusant, en octobre 1871, donc après le retour des œuvres, publie ces deux caricatures. Donc vous voyez une copiste qui apparemment avait été enfermée dans une des caisses. Bien entendu, c'est totalement faux, hein, mais voilà. Et un copiste qui, lui, est chargé d'une commande, d'un poussin. Le poussin est dans la caisse et donc il copie la caisse. Voilà. Donc ça, c'est une des traces dans la presse. On a Edmond Abou et Alfred Darcel qui en parlent, mais très rapidement, dans deux articles. Edmond Abou parle de l'évacuation de la Vénus de Milo, qui a été évacuée, mais pas à Brest, mais jusque dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris. Et où il affirme que l'intention du cacheur fut puérile et le choix de la cachette insensé. Et ces deux photos sont inédites, en fait. Elles sont apparues récemment sur la base RMN Photo, en fait. Je ne les avais pas jusque-là. Et il y a deux mois, en faisant de la veille, tout d'un coup, elles ont été numérisées il y a très peu de temps. Et donc, je pense que c'est des photos de Charles Marville, parce que ça. Les photos au Louvre à l'époque sont prises par Marville. Et donc, vous voyez la Vénus de Milo dans sa caisse de transport. Elle avait été cachée, emmurée, en fait, dans les sous-sols de la préfecture. Vous le savez, la préfecture a brûlé, mais la Vénus est ressortie des décombres de la préfecture, quasi intacte. Elle était légèrement, vous le voyez, on le voit un peu brunie par la fumée de l'incendie. Ainsi, donc, quelles sont les motivations de cette évacuation ? La première, à l'échelle nationale d'un pays. Et c'est bien la peur, en fait, de spoliation prussienne, en réponse aux translocations révolutionnaires et napoléoniennes, qui est l'explication de cette évacuation. Cette peur, elle n'est jamais publiquement énoncée par les responsables. Pour autant, elle a bien mené à cette décision. De même, il faut aussi le dire, que le bombardement et la disparition dans les flammes des collections du musée de Strasbourg le 24 août 1870. Dans les années qui ont précédé la guerre franco-prussienne de 1870, de nombreux chercheurs allemands se sont intéressés aux œuvres, en fait, aux manuscrits qui avait été conservé par la France après 1815. Et à la suite des premières victoires prussiennes, une commission était chargée au quartier général allemand de dresser en fait une liste des objets spoliés par les armées révolutionnaires et impériales et jamais rendus. Alors, un certain nombre d'experts allemands doutaient de cette action, considéraient même que la droiture allemande n'autorisait pas à réclamer ces objets. Apparemment, c'était aussi le cas de Bismarck, mais un certain nombre d'autres institutions, ont préparé leur liste d'objets à récupérer. Moins de deux semaines après en avoir reçu l'information, les musées de Prusse fournissaient un inventaire de leurs revendications. Quant au musée de Cassel, ils donnaient une liste fin août 1870, au moment même en fait, où la décision de protéger les collections françaises était prise. Donc la découverte de l'existence de cette cellule de recherche et la volonté de résister à d'éventuelles translocations sont sans aucun doute à l'origine de cette évacuation des collections du Louvre, comme le confirme d'ailleurs Goncourt dans son journal où il dit ceci. Il explique qu'on a enlevé des cadres qu'on a roulés et qu'on envoie à Brest pour les sauver des Prussiens. les tableaux du Louvre. Et donc, c'est un des seuls témoignages directs où on dit que c'est bien pour les sauver des Prussiens. Tous les autres, dans les rapports, enfin, toutes ces choses-là, on ne parle jamais des spoliations révolutionnaires ou impériales. Et le seul à le dire, mais parce que c'est un journal privé, en fait, finalement, c'est Goncourt, par rapport à ce que lui a dit Chenevière. De même, donc, les évacuations effectuées, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, parce qu'il n'y a pas que le Louvre qui a caché ses collections. Dans un certain nombre de musées de province, comme à Montpellier, donc là, vous voyez les procès-verbaux de la commission du musée Fabre, qui dresse en fait des listes d'évacuation de peur de l'arrivée des Uhlans à Montpellier. C'est une citation, hein, l'arrivée des Uhlans. Ou encore à Lyon, où le conservateur Martin d'Ossigny cache les œuvres dans les souterrains du musée qui avait servi à cacher les bonnes sœurs durant la Révolution. Vous avez donc les œuvres qui sont cachées dans le labyrinthe des souterrains du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et puis vous avez surtout cette circulaire de protection des collections publiques françaises qui est envoyée par Arsène Houssaye. Alors là, cette circulaire-là date de janvier 1871. Donc on parle des bijoux et des joyaux de la République dans cette circulaire. Mais la circulaire est citée par la commission du musée Fabre en septembre 1870. Donc il y a sans doute deux versions de la circulaire, mais la seule que j'ai réussi pour le moment à trouver dans les archives en région, c'est à Bordeaux. Et voilà. Et donc musée de Bordeaux qui avait aussi commencé à cacher ses collections, qui les a mis en caisse, mais qui a brûlé pour des raisons tout à fait autres en 1871, et on a perdu du coup une partie des collections du musée de Bordeaux qui étaient en caisse à ce moment-là. Pour autant, et par rapport à ces réactions pour résister à d'éventuelles translocations, il faut être honnête, un certain défaitisme apparaît dans les réactions des contemporains de l'époque, dans la société de 1871, puisque Alfred Darcel, qui donc a laissé quelques lignes sur cette question, dit ceci. Si les Prussiens vainqueurs avaient songé à insérer dans le traité de paix à intervenir après la guerre une clause prescrivant la remise de quelques œuvres d'art, comme Napoléon le fit dans le traité de Tolentino, en quelques lieux qu'eussent été cachées ces œuvres, on aurait bien été contraint de les livrer un jour. C'était toutefois sans compter en fait sur les consignes données par Nieuwkerk à Tosia, puisque si les Prussiens étaient arrivés jusqu'à Brest, ordre avait été donné à Tosia de charger les caisses donc sur ce fameux navire école de la marine impériale, l'Hermione, qui serait parti jusqu'à La Rochelle. Et si les Prussiens étaient arrivés à La Rochelle, l'Hermione, cette fois, avait ordre de traverser l'Atlantique pour que les Prussiens ne mettent pas la main sur les collections du Louvre. Voilà pour 1870. Dès le début de la Grande Guerre, et puis on ne parle plus du tout, hein, ensuite dans la presse française ou au Louvre, de cette évacuation de 1870. Dès le début de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, la modernisation des armes de destruction et la systématisation des bombardements entraînent de très importantes pertes humaines et patrimoniales. Très vite, les belligérants vont invoquer la culture dans l'effort de guerre, vont mobiliser historiens d'art, conservateurs, contre la culture de l'ennemi et pour démontrer surtout son aptitude à mettre en danger le patrimoine. Les Allemands, vous connaissez peut-être cet ouvrage, sont accusés de détruire le patrimoine, tandis que les Français, eux, se voient reprocher par les Allemands de ne pas savoir le protéger, et ce, depuis les destructions de la Révolution, voire même de s'abriter lâchement derrière les monuments et de se servir du contenu du Louvre comme gilet pare-balles. C'est ce qui est écrit par les caricaturistes du Kladderadatsch. Dès les premiers jours du conflit, alors que le précédent 1870 réapparaît dans les archives du Louvre à ce moment-là, et il est singulièrement éloquent à cet égard, si l'on en croit le conservateur des peintures qui écrit ces mots, on va mettre en place les premières mesures de sécurité. Donc vous voyez les petits dessins qui apparaissent et les sacs de sable qui apparaissent aussi aux fenêtres du musée du Louvre dès les premiers jours du conflit. Sauf que le 23 août, la percée allemande déborde totalement les troupes françaises, et elle ne sera finalement stoppée que bien plus tard lors de la bataille de la Marne. Devant cette situation, le Conservatoire du Louvre est interrogé en fait le 24 août 1914 par le gouvernement sur la pertinence d'une évacuation des collections. Les conservateurs ne voient pas l'intérêt de la pertinence de l'évacuation. Ils pensent que l'ennemi connaissant les trésors du Louvre, ceux-ci seront, quoi qu'il se passe, pris en otage en cas de défaite. Donc ce qui est intéressant, c'est que le conservatoire apparaît tout de suite inquiet d'éventuelles translocations. C'est à ça que pensent les conservateurs. C'est aux translocations. Et d'ailleurs, l'Allemagne crée en 1915 une commission d'Egering pour récupérer les objets spoliés lors des guerres de Napoléon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'appareil politique, lui, ne pense pas aux translocations, mais est effrayé en fait par le potentiel de destruction des armes engagées dans le conflit, d'autant plus que le 25 août, la ville de Louvain est en partie incendiée et que la bibliothèque universitaire de Louvain disparaît dans les flammes. Le 28 août, et malgré le refus premier des conservateurs du Louvre, eh bien Albert Dalimier, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, ordonne à Henri Marcel, directeur des musées nationaux, le déplacement des œuvres des collections du Louvre. Donc une nouvelle fois, on lance une opération d'évacuation, dans la plus grande urgence, puisque, une nouvelle fois, rien n'est prêt. Tout comme en 1870, donc ça sont majoritairement des tableaux et des objets d'art plus aisés à manipuler que les sculptures qui sont concernées. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 1914, nous avons des photos de l'évacuation attribuées à André de Ridder, qui était conservateur adjoint aux Antiques, et qui permettent donc de visualiser le processus d'évacuation. Donc là, vous voyez la salle des États, les Rubens Médicis qui ne sont plus en place, la grande galerie qui se vide progressivement. On voit aussi qu'on commence à évacuer des sculptures. La Vénus de Milo est à nouveau déplacée, mais elle partira avec l'ensemble des collections. Elle ne sera pas cachée dans la préfecture cette fois-ci. Tandis qu'en revanche, la Victoire de Samothrace est protégée dans un sarcophage in situ parce qu'on n'ose pas la déplacer en 1914. On la déplacera en 1940, vous le verrez tout à l'heure. Donc on a une sélection de 770 œuvres qui est envoyée vers le sud de la France, dans le plus grand secret, sous la garde de Paul Jameau. C'est-à-dire qu'en fait, on a exactement, ou quasiment exactement, envoyé la liste d'évacuation de 1870 complète. En 70, on a arrêté l'évacuation en cours de route, on avait prévu d'évacuer 750 œuvres. En 1914, on évacue 770 œuvres et les deux listes sont quasiment identiques avec des sculptures en plus, en fait. Donc après un voyage assez difficile, le convoi arrive à Toulouse le 3 septembre puisqu'en fait le train est parti sans savoir où il allait s'arrêter. On hésitait en fait entre Pau et Toulouse et finalement le convoi s'arrête à Toulouse. Paul Jameau, qui accompagne le convoi, se lance dans une rapide inspection des différents lieux de stockage qu'on lui propose et qui sont disponibles. Et son choix, en fait, se porte sur l'église des Jacobins. Il l'explique dans un télégramme à Henri Marcel. Donc vous voyez, c'est vraiment dans la plus grande urgence. Pourquoi l'église des Jacobins ? Parce qu'elle réunit trois éléments primordiaux : isolement, sécurité, aération. C'est toujours cette question. On évacue pour protéger les œuvres, mais bien entendu, il ne faudrait pas que l'évacuation soit plus dangereuse que les Allemands. Après quelques travaux d'aménagement, donc les remorques vont être entreposées. Et là encore, on a quelques photos de ces remorques. Donc, c'est les remorques de déménagement dans lesquelles on a mis les œuvres, qui ensuite ont été placées dans les wagons. Et donc, on n'a pas déplacé les œuvres des remorques de déménagement. On a comme ça déplacé les remorques de déménagement jusque dans l'église des Jacobins. Ce qui posera d'ailleurs un problème en 1915, puisque ce sont des remorques qui sont louées et ça coûte beaucoup trop cher selon le ministre de l'Instruction publique. Donc Paul Jameau, en plus c'est intéressant, va peindre quelques vues intérieures en fait de l'église, puisqu'il il avait une activité de peintre amateur, et donc vous voyez, et c'est intéressant que les tableaux de Jameau reprennent assez précisément finalement les photos qu'on peut avoir de l'intérieur de l'église des Jacobins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on, par les photos, on a aussi conscience du système de protection qui est mis en place, qui est assez draconien. Comme vous le voyez, on aperçoit en fait ces soldats qui sont chargés de garder les collections. Il y a toute une compagnie en fait de l'armée française qui est placée autour de l'église des Jacobins. Et ce qui est formidable avec les archives françaises, c'est que généralement on conserve tout. Et vous avez là l'ensemble, une partie des mots de passe, c'est pour juste un mois, qui est le mois de septembre 1915, pour rentrer dans l'église. C'est un système à double mot de passe en fait, et tout était plié comme ça. Vous voyez, et chaque jour on avait deux nouveaux mots de passe. Et si vous ne donniez pas le mauvais mot de passe, vous aviez des problèmes avec la compagnie de soldats qui était autour de l'église. Au-delà d'anecdotes, il faut comprendre que l'importance de cette sauvegarde a une réelle ampleur, puisqu'il faut savoir que même le ministre de l'Instruction publique, en fait, vient inspecter l'église des Jacobins le 21 juin 1915. Donc c'est extrêmement important. Alors Paul Jameau est très confiant dans l'emballage des œuvres. Pourquoi les tableaux souffriraient-ils plus qu'ils ne l'ont fait en 1870 sous le climat humide de Brest pendant plus d'un an ? Il ne savait pas qu'il allait rester 4 ans à Toulouse. L'inspection permet toutefois d'obtenir des moyens supplémentaires. Cette photo, elle vous permet aussi de découvrir qu'il n'y a pas que le Louvre qu'on a évacué, puisque là, il y a écrit Cluny dessus. En fait, c'est une partie des collections du musée de Cluny qui ont aussi été évacuées. Il faut savoir que dans les remorques, vous avez la tapisserie de la Dame à Licorne qui est roulée, parce qu'il n'y avait pas de caisse à sa taille. Donc l'entreposage des œuvres dans ces fameuses remorques va être, et c'est ça qui est assez intéressant, repensé tout au long de l'évacuation, en fait, dans un exercice assez fascinant qui mélange histoire du goût, question de préservation des collections et priorité à donner au cas où il y aurait un problème dans l'église. Donc le classement des tableaux dans les caisses, mais également des caisses dans chaque remorque, est revu si jamais il était nécessaire de rebouger en urgence. Et on a conservé, là encore, tous les brouillons de ces travaux de reclassement qui témoignent, en fait, de la volonté des conservateurs de résister à d'éventuelles translocations, puisque vous voyez tous les brouillons, et les chiffres et les numéros qui sont donnés ne sont pas les numéros classiques des inventaires du Louvre. En fait, c'est des numéros codés pour que... Alors, déjà, pour comprendre les brouillons, il faut prendre un certain temps, mais alors pour en plus comprendre les numéros, ça rajoute à la difficulté. Mais en fait, il y a des choses beaucoup plus propres. Et donc, si les tableaux qui sont présents dans ces caisses correspondent vraiment à un résumé de la création artistique européenne de la fin du Moyen-Âge au XIXe siècle, vous voyez là dans une caisse, vous avez l'Olympia de Manet, la Vierge au Rocher et l'embarquement pour Cythère de Watteau. Et on mélange les caisses et les artistes. Et si les conservateurs de 70 avaient évacué les collections italiennes, essentiellement, en 14, on a évacué Rubens, Mantegna, Murillo, David, Poussin, Raphaël, Ingres, Chardin, Greuze, Delacroix, Barry, Corot, Courbet, Théodore Rousseau, Millet, Manet, Degas, Sisley, etc. etc., etc. La surveillance des caisses est permanente jusqu'au 11 novembre 1918. Jameau déclare à ce moment-là « Il ne faut d'ailleurs pas regretter la longue et minutieuse besogne que nous venons d'accomplir. En plus du soulagement qu'elle nous procure, elle a été utile. Elle a mis nos tableaux en état d'attendre sans péril l'heure du retour. Qu'il me soit permis de croire que cette heure n'est plus très éloignée. » Effectivement, le 11 novembre, on s'en rapproche. Mais avant cela, d'autres dangers ont menacé les collections du Louvre, puisque les échanges épistolaires entre Jameau et le Louvre augmentent considérablement à fin 1915, début 1916. Pourquoi ? Eh bien parce que le député de Toulouse, Antoine-Hélène Prévost, apprend que le Louvre est à Toulouse et cherche à organiser au plus grand effroi des conservateurs une exposition des œuvres du Louvre dont le point d'orgue serait la Joconde. Après son vol en 1911, sa récupération en 1914, le panneau de Léonard de Vinci possède une place particulière dans les collections publiques françaises. Son histoire fascine, elle fascine aussi Antoine-Hélène Prévost, et donc il essaye de tirer un bénéfice politique de sa présence dans sa circonscription. Et il obtient un appui ministériel du président du Conseil qui accepte la mise en place de cette exposition. Paul Jameau est effrayé, il explique qu'il est pieds et poings liés, livré au bon plaisir de la municipalité toulousaine. Il menace de démissionner du Louvre, il a extrêmement peur, parce que bien entendu, ainsi on va faire connaître à tous l'emplacement du lieu de reprise des collections. Son supérieur au Louvre, le prieur conservateur des peintures, explique que exposer la Joconde, ce serait mettre le comble à la folie que de livrer sans aucune nécessité aux risques inévitables d'une exposition publique accrue par l'état de guerre, le chef-d'œuvre le plus insigne de nos collections, celui que nous avons entre tous le devoir de sauvegarder avec la plus extrême prudence après les aventures qu'il a subies et qui ne nous l'ont rendu que par un miraculeux hasard. Dès lors, un bras de fer s'engage entre politiciens et conservateurs. La polémique enfle considérablement dans la presse parisienne, à l'Assemblée même, et dépasse rapidement le cadre de l'exposition toulousaine pour s'assurer de la sécurité des œuvres. Devant l'empereur pliés par les événements, le gouvernement finit par retirer son soutien au projet et Antoine-Hélène Prévost n'aura pas sa Joconde au Cimaise toulousaine. Alors, si une ouverture partielle du Louvre a eu lieu à deux reprises, en mars 1916 et février 1917, non, ce n'est pas le Louvre, hein, et ce n'est pas le radeau de la Méduse de Géricault, c'est la copie commandée par Nieuwkerk en 1856, et c'est le musée d'Amiens. Il faut savoir que la multiplication des destructions tout au long de la guerre, le traité de paix séparé entre la Russie et l'Allemagne, font qu'on va évacuer quasi la totalité des musées français et de très nombreux musées du nord et de l'est de la France, mais qu'il y a eu des destructions. Le musée de Douai, le musée de Cambrai, enfin, pour, la liste est malheureusement très longue. Et en 1916, Toulouse en fait, devient le refuge de collections de ces musées menacés. Vous allez avoir les collections des musées de Reims, d'Amiens, pour ce qui n'a pas été touché, de Calais, de Dunkerque, par exemple, qui se retrouvent à Toulouse. Ce mouvement va être encore accéléré par les obus lancés donc, sur Paris en 1918 par le Pariseur canonneux et non par la Grosse Bertha. Et les collections qui restaient sont alors déplacées. Et là, on évacue mais tout ce qui reste dans Paris, que ce soit au Louvre, et il restait plus grande chose, mais aussi au musée des arts décoratifs ou au musée du Luxembourg, toute perte patrimoniale supplémentaire devenant inacceptable selon les termes du ministre. Ces dernières évacuations, en fait, elles seront suivies finalement très peu de temps après par le retour définitif des œuvres, puisque après plus de 4 années, Paul Jameau quitte définitivement Toulouse le 22 décembre 1918 à la tête du convoi ramenant les remorques des musées nationaux à Paris. Les civilisations se sont éprouvées comme concrètement mortelles. Pour citer Paul Valéry, Élan, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Le patrimoine, avec ce premier conflit mondial, est devenu un enjeu majeur des oppositions armées contemporaines, et plus que sa résistance aux translocations, c'est désormais sa survie même qui va être en jeu. Durant l'entre-deux-guerres, la présidence du Conseil, en fait, va s'inquiéter de la préservation du patrimoine français en cas de nouveau conflit à la suite de ces destructions massives de la Première Guerre mondiale. L'organisation générale d'une éventuelle nouvelle évacuation est évoquée dans un rapport secret daté de février 1930. Et qui fait donc de l'évacuation de 1939 la seule préparée et pensée largement en amont et non dans l'urgence. Ce premier projet, alors il faut être honnête, reste très peu précis. Il n'énonce que des principes de relatif bon sens, sauvegarder les œuvres, le personnel, concerne les musées nationaux et les régions frontalières. Mais en octobre 1932, sans doute à la suite du retrait de l'Allemagne de la conférence de Genève sur le désarmement, Henri Verne, donc le directeur des musées de France, demande à ses conservateurs de commencer, dans une éventualité qu'il faut prévoir tout en souhaitant qu'elle ne se produise pas, à étudier de très près la liste des objets de vos départements qu'il serait nécessaire d'évacuer, établis par ordre d'urgence, ainsi que les modalités que vous proposez d'adopter pour leur évacuation. 1932. Et donc un premier plan d'évacuation est ébauché. Le traité de Washington ou Pacte Riche sur la protection des monuments et des œuvres d'art en cas de guerre est signé le 15 avril 1935. Toutefois, il ne rencontre en fait que très peu de succès auprès des pays européens, puisqu'aucun des grands pays européens ne le ratifie. C'est-à-dire que les États-Unis vont le ratifier, le Mexique va le ratifier, mais le Royaume-Uni ne le ratifie pas, la France ne le ratifie pas, l'Allemagne ne le ratifie pas, les Pays-Bas ne le ratifient pas, etc. etc. Cette action était pourtant soutenue par l'Office international des musées, qui regroupe de très nombreux conservateurs européens. Et d'autant plus qu'au sein de l'Office international des musées, on parle beaucoup de ce qui s'est passé lors de la guerre civile. On va parler notamment aussi beaucoup de ce qui s'est passé en 1936, puisqu'on va évacuer le Prado à la suite des bombardements franquistes sur Madrid. Et que tout ça va initier des mesures qui vont se dérouler dans toute l'Europe. Donc en fait, on a là encore des conservateurs qui ont conscience d'un certain nombre de choses et qui vont donc agir. Et pour la première fois en fait, dans l'histoire mondiale, ce n'est plus un pays qui met en sûreté son patrimoine, mais c'est la quasi-totalité des nations européennes qui projettent l'évacuation de leurs collections pour éviter les destructions ou les translocations. Et ce qui est intéressant, c'est que la revue de l'institution, donc de cet Office international des musées, qui est Muséon, elle sert véritablement de vecteur de diffusion des mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des collections. Vous avez carrément un numéro spécial en fait, qui compile tous les articles des années précédentes, qui se veut un manuel consacré à la protection des œuvres d'art en temps de guerre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la nationalité des auteurs de ces articles. Et dedans, vous avez des Anglais, des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Autrichiens, des Français, des Hollandais, des Italiens et des Allemands. Et donc, qui témoignent des échanges transnationaux qui traversent la revue et de la prise de conscience, finalement, du monde de la conservation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va bien entendu avoir des impacts directs, puisqu'on a des dessins dans Muséion et puis on a des photos de ce qui est mis en place très rapidement. Et dans l'ensemble des pays, puisque vous voyez la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. À Paris, la Direction générale des Beaux-Arts, en août 1935, demande à Henri Verne de réellement mettre en place cette fois-ci un plan très sérieux d'évacuation, avec une planification réaliste de la protection des collections. Et donc on a les premières listes qui sont qui sont définitivement proposées à Verne en février 1936. Le Prolan des musées nationaux prévoit dans un premier temps en fait, d'abriter une majorité d'œuvres dans leur institution et donc au Louvre, de ne pas évacuer. Tandis que Joseph Billet, qui est inspecteur des musées de province, lui est chargé d'établir par ordre d'urgence les listes des œuvres d'art à évacuer ou à protéger en cas de conflit international pour les musées des régions du Nord et de l'Est de la France. Donc la tâche de planification est immense, d'autant plus qu'en fait, on va finalement décider de planifier au cas où des lieux de repli pour l'ensemble des musées de France. Le château de Chambord est désigné le 19 mai 1938 comme dépôt principal des musées nationaux. Et très rapidement, une véritable répétition générale va avoir lieu au moment du sommet de Munich. Un premier convoi en fait part du Louvre le 27 septembre 1938, deux jours avant la réunion entre Daladier, Chamberlain, Hitler et Mussolini. Et l'exercice souligne les défaillances du système, soumis, et là je cite encore les contemporains, à une improvisation continue et angoissante. L'accord négocié entre les puissances européennes permet aux œuvres du Louvre de retrouver leur simèse dans une atmosphère absolument surréaliste, puisque les caisses prévues pour l'évacuation restent dans les salles sous les œuvres. Chambord, poste trop visible, trop repéré déjà par le public, ne peut être conservé sans engager lourdement la responsabilité de l'administration et des Beaux-Arts, d'autant que la presse a découvert l'évacuation et a publié des articles. Les précautions françaises font même l'objet en fait, des gros titres de la presse allemande. Et Chambord est cité dans les articles allemands. Donc Chambord ne peut plus servir de lieu d'évacuation pour les musées nationaux et va en fait servir de centre de triage. Et donc vous voyez ces étiquettes où en fait sur les caisses on mettait Château de Chambord, mais ensuite on ne met pas où iront réellement les caisses, puisque le château sert de point de rendez-vous en fait aux convois de camions avant de se rendre dans les nouveaux lieux de repli. En fait, 71 châteaux et abbayes vont être réquisitionnés pour servir de lieu de protection des collections publiques françaises. Après donc les ratés de 1938, il est décidé finalement qu'on évacuera entièrement le Louvre et plus uniquement un certain choix d'œuvres. On va du coup réfléchir aussi à cette évacuation parce que justement, il y a un certain nombre de ratés. Et il faut savoir que pour chaque salle du Louvre, vous avez un plan d'évacuation précis avec le parcours des œuvres dans le Louvre jusqu'aux ascenseurs et aux monte-charges où les œuvres rentrent. Eh oui, parce que quand on se retrouve devant l'ascenseur de la conservation, vous savez, cours carré ou... À trois, vous ne rentrez pas dedans et qu'on veut y faire entrer un grand format du 19e siècle, ce n'est pas possible. Donc, il faut réfléchir à ces éléments-là. Et chaque salle et chaque personnel du Louvre a comme ça son plan d'évacuation pour la salle dont il a la responsabilité. Et tout a été conservé, là encore. Donc, un parcours d'évacuation est pris en compte, est mis en place. Et donc, si les caisses sont siglées musées nationaux et que la destination de Chambord est publique, les listes d'évacuation, en revanche, sont totalement codées pour que seuls les conservateurs connaissent le contenu des caisses et leur destination définitive. Le Louvre, en fait, disperse ces différentes écoles de peinture entre des centaines de caisses pour éviter aussi, si jamais on perdait un ensemble de caisses, que par exemple toute l'école italienne et tous les Léonard de Vinci disparaissent d'un coup. Et d'ailleurs, la Joconde est l'unique œuvre du Louvre à disposer de sa caisse personnelle et unique pour les tableaux, hein, marquée de trois pins rouges. Donc c'est la LP0 pour Louvre Protection, caisse 0. C'est même pas 1, c'est 0 pour la Joconde. Et donc les listes sont codées. Et le 24 août 1939, alors que le pacte de non-agression germano-soviétique devient public, eh bien là, on commence vraiment à s'inquiéter. Et le 27 août 1939, donc 7 jours avant l'entrée en guerre de la France, Ordre est donné aux conservateurs des collections publiques françaises d'évacuer leurs collections. Et donc là, vous voyez le télégramme envoyé aux conservateurs de Metz pour demander l'évacuation. Les dépôts rentrent dans une douce folie. Ils vont recevoir les œuvres principales de 200 musées de province, en plus des musées nationaux. Un tiers, d'un point de vue chiffré, des collections publiques françaises sont évacuées en quelques jours. 51 convois quittent le Louvre entre le 27 août et le 28 décembre 1939. On a les listes, on a tout, hein, tout a été conservé. Le cérémonial du départ, et là encore je cite les contemporains, était déjà fixé, il avait pris une allure de conscription révolutionnaire. C'était un spectacle réglé comme un ballet. Dans la cour carrée, fermée au public, on avait installé des tables et des chaises. Jacques Jaujard présidait, entouré de quelques fonctionnaires et du chef des transporteurs. Les camions défilaient devant eux, on dressait la liste des caisses dans chaque camion, on pointait les noms des chauffeurs et des convoyeurs, on pointait les tableaux, on vérifiait les amarres, les bâches et les camions se mettaient en file, entourés de motards de la police. Puis, quand la colonne était en ordre, les voitures convoyeuses en tête et en queue de cortège ont donné le signal du départ. On a des dessins en fait de certains conservateurs du Louvre reprenant en fait ces camions avec les motards de la police devant. Les camions du convoi du 3 octobre s'éloignent de Paris avec à leur bord la Vénus de Milo, les bas-reliefs des Panathénées, les esclaves de Michel-Ange et la victoire de Samothrace. Alors je ne sais pas si vous avez en tête le déplacement récent pour sa restauration de la victoire de Samothrace avec le pont numérique qu'il a déplacé millimètre par millimètre. Et je vous montre le pont non numérique de déplacement de 1939. Le tracteur à remorque des décors de l'Opéra de Paris est réquisitionné pour faire partir les grands formats. Dedans, vous avez les noces de Cana, le sac, le couronnement de la Vierge, le radeau de la Méduse. Et d'autres grands formats qui partent. Souci majeur, alors, on a choisi les lieux d'évacuation en étant certain de l'inviolabilité de la ligne Maginot. Et donc, bien entendu, comme l'armée allemande ne passe pas par la ligne Maginot, mais par la Belgique, comme en 1914, il est nécessaire d'évacuer à nouveau en fait, les œuvres en mai et juin 1940. Et donc là, vous voyez, c'est une carte qui est issue d'une exposition qui a eu lieu au Louvre dans les années 1950, où on a donc les châteaux d'origine, Louvigny, Sourges, Courtalin, Chambord, Cheverny, Valençay, et puis finalement, où on va bouger tout au long de la guerre, puisqu'on va bouger plusieurs fois tout au long de la guerre. Déjà parce qu'un certain nombre de... On a un problème, c'est qu'un certain nombre de châteaux sont au nord de la Loire. Certains, d'ailleurs, ne seront pas évacués. C'est le cas de Sourches ou de Courtalin. Vous avez aussi, au sud de la Loire, des châteaux qui vont bouger. Et en fait, le département des peintures, lui, va partir dans un premier temps jusqu'à l'abbaye de Locdieu, que vous voyez là, dans l'Aveyron. Donc c'est le personnel du département des peintures, c'est 250 personnes, les gardiens, les conservateurs, leurs familles, et 3120 tableaux qui arrivent à l'abbaye de Locdieu. Le souci, c'est que les conditions de conservation ne sont pas satisfaisantes. Du coup, on rebouge, et on rebouge très vite. Et on va jusqu'où ? En fait, on va jusqu'à Montauban, au musée Ingres. Et même si on ne devrait jamais quitter Montauban... C'est Lino Ventura qui le dit dans Les Tontons Flingueurs, je vous le rappelle. La peur des bombardements et le musée qui surplombe des ponts de Montauban fait que finalement on se déplace une dernière fois en 1943. Et on va où ? On va en fait en partie à Montal, donc dans un château des contreforts du Massif central. Et les collections de peinture finiront en fait la guerre cachée à Montal. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que ces évacuations de 39 et 1940 étaient extrêmement préparées, qu'elles se sont étonnamment bien déroulées. Il n'y a quasiment aucune perte, alors qu'on est dans une France qui est totalement à la dérive, qui est la France de la drôle de guerre. Les conditions matérielles étaient pourtant loin d'être évidentes. Il fallait avoir les camions, il fallait avoir l'essence, il fallait avoir les chauffeurs. Un certain nombre en fait, des attachés, des jeunes conservatrices du Louvre ont en fait, énormément conduit de voitures à ce moment-là, puisque une partie des conservateurs hommes étaient sur le front, en fait, allaient très vite être demandés par l'armée. Et c'est des choses qu'on a longtemps oublié de parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a couplé à l'expérience des évacuations de 70 et 14, on a réussi à mettre en place une évacuation préparée avec une issue assez favorable. Tout ça sous la direction de Jaujard, donc de Jacques Jaujard, qui a pensé piloter l'évacuation pour Henri Verne et qui remplace en fait Henri Verne comme directeur des musées de France à partir du 1er janvier 1940. Jaujard va organiser aussi la vie des dépôts durant la Seconde Guerre mondiale. On inventorie, on récolte les collections. On rebouge, comme en 1915 à Toulouse, les œuvres dans les dépôts si jamais on devait réévacuer en urgence les dépôts. Donc il y a une très forte activité dans ces dépôts. Dès 1942, Jaujard demande à Vichy d'informer des alliés de la position des dépôts afin d'éviter tout bombardement. On lui répond qu'il n'est pas un patriote en demandant ce genre de choses. Il reçoit un refus catégorique, la proposition donc étant jugée totalement inopportune. Il réitère sa démarche en 1944. Et en 1944, on fait passer par l'ambassade de France en Espagne les informations jusqu'à Londres. Vous allez donc avoir des panneaux qui seront mis dans les jardins des lieux de dépôt. Vous voyez donc ces panneaux musées nationaux. Et Radio Londres, en fait, va envoyer un certain nombre de messages pour prévenir que les lieux d'évacuation sont connus. Et il y a tout ce qui sera mis en place derrière avec les Monuments Men, etc. Mais c'est encore autre chose pour, en fait, préserver les lieux de dépôt au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées. Entre 40 et 44, les dépôts, on pourrait penser qu'ils ont eu une vie assez calme. Alors c'est complexe, c'est relativement calme, mais c'est en même temps parfois extrêmement troublé, parce qu'il y a des inspections du Kunstschutz allemand, il y a des inspections des nazis, il y a des inspections de l'ERR. Pourquoi ? Parce que, un, ils veulent s'assurer de la présence des œuvres et de l'exactitude des inventaires, puisque tous les objets d'origine allemande auraient été réclamés pour le musée de Linz si un traité de paix avait été signé. Et donc, il y aurait eu une énorme translocation, mais il n'y a eu qu'un armistice de signé. Et surtout, l'ERR va venir en fait spolier les œuvres appartenant à de grands collectionneurs juifs qui avaient été évacués par les musées nationaux. Puisque, par exemple, la collection de David Weil, qui était président de la Réunion des musées nationaux, les collections Rothschild, avaient été évacuées par la direction des musées de France. Et les nazis viennent saisir les œuvres et les gardiens et les conservateurs ne s'y opposent pas. Un gardien s'y est opposé lors de la première saisie. Il a été abattu sans sommation par les Allemands. Donc là aussi, on laisse l'occupant faire. En 1944, les autorités d'occupation veulent rapatrier les dépôts en fait, vers Paris pour garder la main dessus. Avec le soutien de Vichy, Jaujard arrive à stopper le projet en expliquant qu'il y a une multiplication des bombardements en région parisienne, que le musée de Sèvres vient d'être bombardé et qu'une partie des collections de Sèvres qui n'avaient pas été évacuées sont en très mauvais état à la suite des bombardements. Donc on évite le déplacement. Il accepterait uniquement qu'on déplace les collections jusqu'en Suisse, ce qui est refusé, bien entendu, par l'autorité d'occupation. Les œuvres des musées d'Alsace-Moselle, en revanche, ont été récupérées dès août 1940 par l'armée allemande pour retourner dans leur département d'origine, puisque je vous rappelle qu'il y a une seconde annexion qui a lieu en 1940 et que l'Alsace-Moselle redevient allemande comme en de 70 à 18. Ces départements sont réintégrés au Reich et les œuvres des musées sont considérées comme des œuvres de musées allemands et doivent donc être dans les musées. Les œuvres sont spoliées sans protestation de l'administration française, strictement rien n'est fait, et elles se retrouveront en fait en plein cœur des combats au moment de la libération de ces territoires. Et là, vous voyez l'état du musée de Metz après les combats en 1944. Et après la libération, les œuvres retourneront progressivement en fait vers leur institutions, et de nombreux musées ne rouvriront leurs portes que vers 1947-1948. Donc j'accélère et je vais conclure, en fait. Lors de ces trois conflits, en fait, les musées français ont évacué leurs collections. Toutefois, si dans le cadre des deux premiers conflits, la résistance à d'éventuelles translocations apparaît comme évidente, ce n'est plus l'enjeu majeur de la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'évacuation de 1939, c'est une nouvelle logique qui prévaut. Tout évacué, tout protégé, plus aucune destruction patrimoniale ne peut être acceptée. La question des translocations apparaît alors comme étrangement absente, et c'est un constat réel. Dans les archives, on parle très peu en fait, de questions de spoliation, assurément à tort lorsqu'on sait ce qui était prévu en cas de signature du traité de paix, justement. Mais les conservateurs français n'y pensent plus, en tout cas ne le verbalisent pas ou ne l'écrivent pas. Alors cette recherche toujours en cours a permis de déconstruire un certain nombre d'idées reçues aussi sur ces politiques d'évacuation, mais aussi de découvrir que cette politique a perduré à travers le service de protection des œuvres d'art confié à Rose Valland, toujours elle, après la Seconde Guerre mondiale. Pour préparer les musées à un éventuel conflit atomique, elle prévoyait notamment d'utiliser les anciens blocos du commandement de la Wehrmacht et de la Kriegsmarine situés à Saint-Germain-en-Laye et au château de Pignerol pour cacher les collections publiques françaises. Ce plan, et donc là vous voyez les plans du bunker de Saint-Germain-en-Laye qui devait être aménagé donc, pour les collections nationales, avec en fait suivant les étages du bunker des rangements par taille des œuvres et des tableaux, aurait été officiellement abandonné à la fin de la guerre froide, mais j'en sais rien. Et trouve, en tout cas ce qui est certain, à n'en point douter, un héritier dans le cadre des plans d'évacuation en cas de nouvelle crue centennale, comme on a pu le constater en 2016. Je termine mon PowerPoint sur cette image où on a commencé en 2016, lors de la crue de la Seine, à évacuer les collections des musées nationaux et des grands musées parisiens. Ce champ d'études reste donc encore à déchiffrer, à défricher aussi, mais il est certain que la prise en compte de l'évolution des réflexions au cours de cette période et de ces conflits, longue et cruciale pour la politique patrimoniale et la question des translocations, permet d'offrir en fait de nouveaux éléments pour une histoire politique du patrimoine et une histoire idéologique des translocations, tout en soulevant aussi des pistes supplémentaires pour une connaissance globale des enjeux nationaux et transnationaux des politiques patrimoniales contemporaines. Voilà, je vous remercie.